Actu SF, les podcasts.
Vous m'entendez ? Oui, bon, ça a l'air d'aller. Alors, bonjour messieurs, dames, je me présente, je suis Olivier Souillet, je suis à la fois le directeur de la galerie Daniel Maghen et l'éditeur, pas des livres que vous voyez sur l'affiche là, mais d'un livre à paraître au mois de novembre qui sera une adaptation de Gaëtan et son frère jumeau Paul Brizzi, de l'Enfer de Dante. Ça sera la première adaptation d'un grand classique, sachant qu'il y en aura deux par la suite, qui seront le Don Quichotte sur lequel travaillent actuellement Paul et Gaëtan, et le troisième sera Songe d'une nuit d'été. Pour les sept prochains, on verra. Et donc, vous aurez la chance de pouvoir voir, peut-être, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont déjà allés à la BMI voir l'exposition sur l'Enfer de Dante ? Ah, ça vous a plu ? Ah non, ouais, non mais c'est derrière vous qu'ils ont été le voir. Ils ont fait les devoirs. Ouais, ça vous a impressionné alors ? Merci beaucoup. Donc vous verrez la particularité de cet album déjà graphiquement. Il y a des originaux de différents formats. Sachant que je vais dévoiler quelque chose. Paul et Gaëtan Brizzi, moi ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ils ont une particularité dans leur travail. C'est qu'il y en a un qui fait les personnages et l'autre les décors. Aujourd'hui, vous avez Gaëtan qui est à côté de vous, qui a réalisé, alors là il y a une exception, vous verrez l'original de l'affiche de l'exposition, qui n'a été faite que par Gaëtan, parce que Paul Brizzi vit à Washington, et en raison des délais pour avoir l'original de l'affiche, il n'était pas possible que Paul y participe. Donc pour une fois, cet original a été fait uniquement par Paul Brizzi. Donc par Gaëtan, pardon, je m'en mêle. Donc, est-ce que vous souhaitez, durant ce moment, que nous parlions uniquement de l'Enfer de Dante, ou est-ce que vous aimeriez que Gaëtan vous raconte la différence de travail selon les auteurs qui l'adaptent, comme Céline, comme voilà, les différents auteurs que tu as adaptés, Boris Vian. Donc maintenant, je vais donner la parole à Gaëtan. Et écoutez, si vous avez des questions, à tout moment, allez-y, on est à votre disposition.
Oui, bonjour. D'abord, merci d'être là. Ça me fait très plaisir de voir que ce que nous faisons vous intéresse, puisque vous êtes là. Donc, comme l'a dit très bien mon ami Olivier, je travaille avec mon frère jumeau Paul. Bon, alors, il faut savoir que notre parcours est particulier. Alors, d'abord, nous avons un parcours, mon frère et moi, très, très, très lié, très fusionnel sur le plan professionnel. On a toujours tout fait ensemble. On a suivi la même scolarité et la même formation. Donc, en cultivant tous les deux nos différences pour arriver à un même résultat, qui est de faire des images. Alors, nous avons longtemps travaillé pour l'essentiel de notre parcours, parce que je suis plutôt jeune, mais dans le dessin animé, en France d'abord, en créant notre société Brizzi Film, qui est devenue par la suite Walt Disney Animation France, puisque Disney a acheté notre boîte, et puis nous avons produit la bande à Picsou, Dingo et Max, et puis des épisodes de Winnie l'ourson, avant de partir finalement, mon frère et moi, alors là, non plus en tant que directeur général de Disney France, mais en tant que réalisateur à part entière à Los Angeles. Là, à Los Angeles, nous avons commencé à travailler sur des projets très ambitieux, comme Le Bossu de Notre-Dame, film pour lequel nous avons réalisé, créé, conçu et storyboardé les séquences les plus dramatiques du film, comme le prologue, la scène finale du siège de la cathédrale, la lutte entre Quasimodo et Frollo, enfin les épisodes les plus dramatiques. Parce qu'une fois qu'on a fait le prologue, puisque c'est nous qui l'avons conçu, qui est un prologue assez dramatique, on a été vite catalogué comme spécialiste drame. Donc, ce qui n'était pas pour nous déplaire. Non pas que j'aime pas la comédie, non pas que nous ne sachions pas storyboarder, mettre en scène de la comédie, mais disons que notre première, notre premier élan va toujours vers des choses plus dramatiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait beaucoup trop long. Une grande partie de notre carrière dans l'animation à Los Angeles, on a travaillé 16 ans pour les majors studios, 10 ans pour Disney, pour DreamWorks, pour Sony, pour Universal, pour tous les grands studios. Et puis par la suite, l'animation étant ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y a des grands moments de succès, des grandes réussites, mais il y a aussi beaucoup de déceptions, beaucoup de films sur lesquels vous travaillez et qui finissent par ne pas voir le jour, qui sont abandonnés. Et ça, c'est monnaie courante à Hollywood. Hein. Il faut bien savoir qu'il y a le haut du panier, les films qui sortent, mais derrière, pour un film qui sort, il y en a 10 qui ne se font pas. Donc, ça a été le cas, par exemple, pour quand nous... Alors, nous avons fait aussi Fantasia 2000, le segment final qui s'appelle L'Oiseau de Feu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film qui était un remake du premier Fantasia qui a été fait dans les années 50 du temps de Walt Disney lui-même. Et puis son neveu Roy a voulu perpétuer, parce que Walt Disney à l'époque voulait que Fantasia soit un film qui soit constamment renouvelé pour explorer le patrimoine de la musique classique. Donc Roy Disney a repris le flambeau avant les années 2000 et nous a demandé de concevoir le dernier segment du nouveau Fantasia qui sortait pour le nouveau millénaire, pour l'an 2000. Et donc nous avons réalisé L'Oiseau de Feu qui était déjà un segment, enfin un, sous forme de... C'est un film qui doit faire une douzaine de minutes, avec une démarche symboliste assez différente de ce qu'a l'habitude de faire la Disney Company. Et puis on a rencontré beaucoup de succès, ça a beaucoup plu. Nous avons eu des critiques très élogieuses dans le New York Times, dans les principaux organes de presse américains. Donc c'était un grand encouragement. Cela dit, et derrière, donc, on nous a laissé carte blanche pour développer le projet que nous voulions. On a toujours été fascinés et très intéressés par Don Quichotte de Cervantes. Et puis donc, on nous a laissé développer le projet pendant 2 ans et demi. Développer un projet en animation chez Disney, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bien entendu, faire un film maquette. Un film maquette, c'est storyboarder tout le film, le bruiter. Storyboarder, ce sont pour chaque plan, avoir un scénario et pour le scénario, illustrer plan par plan. C'est pas de la BD, hein. Ça pourrait en être, mais le storyboard, c'est la mise en scène. Comment, à partir d'un scénario, vous allez raconter votre histoire. Donc tous les plans, vous allez déterminer tous les plans du film, les gros plans, les plans d'ensemble, les plans panoramiques, les plans américains, etc., etc. Comment vous racontez votre histoire? Comment vous allez mettre en scène l'histoire que vous voulez raconter? Donc, on a fait plus de 3 heures de storyboard. On a enregistré des voix dessus avec des acteurs, un illustrateur sonore, un monteur, un producteur. On a travaillé pendant 2 ans et demi. Ça a coûté d'ailleurs très, très cher. Et finalement, le président directeur général, on appelle ça le CEO en Amérique. À l'époque, c'était Michael Eisner. Nous a dit à mon boss qu'il n'était pas question qu'on produise Don Quichotte, qu'on ne pouvait pas raconter l'histoire d'un vieil homme et que ça ne pouvait pas intéresser les enfants. À partir de là, donc, le film a été mis dans les tiroirs, complètement neutralisé. Donc, c'était une grosse déception. C'est ce qui a déterminé, c'est ce qui a fait que nous sommes partis chez DreamWorks pour développer. C'était juste au début de l'an 2000, enfin, c'était au début de 2001. Et on a développé un projet qui nous excitait beaucoup. C'était ce que voulait Katzenberg, Jeffrey Katzenberg, le directeur de la DreamWorks. Une adaptation de Moby Dick, d'après Herman Melville. Que vous connaissez tous, l'histoire d'une baleine blanche, mais du point de vue de la baleine. Donc c'était très intéressant, et puis c'est un projet, encore une fois, très dramatique. Ensuite, pendant qu'on était en train de développer ce film, je vous dis ça parce que c'est important de comprendre notre démarche, j'espère que je ne prends pas trop de temps, je vais essayer de finir pour vous laisser un peu la parole. C'est un film, donc les événements de septembre 11, du 11 septembre donc 2001, des tours du World Trade Center a changé la donne. Bien entendu, l'Amérique, j'étais à l'époque donc sur place, l'Amérique a été profondément choquée et on est tous tombés dans un certain immobilisme dû à la sidération que chacun a pu éprouver à ce moment-là. Et du coup, Hollywood, ce qu'on appelle l'industrie, là-bas, quand vous dites « you work for the industry », tu travailles pour l'industrie, ça veut dire le cinéma. Hollywood, c'est le cinéma et que le cinéma. Mais comme le dit le mot, l'industrie, c'est donc une démarche commerciale, industrielle. Donc tous les gens de marketing, tous les gens qui font la pluie et le beau temps en matière de production ont voulu un retour à la comédie. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ont commencé à faire Shrek, à faire tous ces films où il s'agissait de rire, il s'agissait d'oublier, déjà de commencer à cicatriser, quoi. Et donc, à partir de là, donc... on a moins trouvé notre place, non pas que nous sommes des gens mordus de drame, hein, qu'on veut faire du drame, mais ce n'était pas notre truc, comme on dit vulgairement. Et puis donc on est rentré en France, je résume, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est là qu'on a voulu changer notre fusil d'épaule et voulu que nos dessins finissent par être publiés tels quels. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers le monde de l'édition. Il y a deux facteurs qui nous ont encouragés à faire ça. D'abord, le désir de la galerie Daniel Maguen, représentée ici par Olivier, qui en est le directeur, qui était tombé amoureux de nos dessins et qui nous a demandé de faire des dessins pour la galerie. Et on a fait une première exposition chez lui, qui était ça s'appelait Opéra.
Tu me permets
je t'en prie.
Je vais vous raconter une petite anecdote. À l'époque, je découvert sur Internet le travail de Paul et Gaëtan sur l'Orlando Furioso. Ils avaient fait un livre qu'ils ont auto-édité et je découvre des illustrations magnifiques. Je connais même pas leur parcours vraiment de dessin animé et je découvre leur travail. Et puis je vois un mail, je dis écoutez, Paul, Gaëtan, pour moi. Ils habitaient la rue d'à côté, hein. J'étais quai des Grands Augustins à Paris, dans le 6e arrondissement, enfin du moins la galerie où je travaille. Et je leur dis, Paul, Gaëtan, est-ce que vous aimeriez bien travailler avec la galerie Maguen? J'aimerais exposer vos originaux de l'Orlando Furioso. Et est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Ils m'expliquent quand même que vous habitiez à Los Angeles, où ils m'ont dit que ce serait un peu compliqué de prendre le métro de Los Angeles jusqu'à la galerie. Et donc à partir de là, on devait faire l'exposition. Et puis un an, quelques mois après, il y a un grand compositeur qui leur achète tous les originaux du livre. 46 planches. C'est-à-dire que je ne pouvais plus faire d'exposition puisqu'il n'y avait plus d'originaux. Donc à partir de là, finalement, Paul et Gaëtan ont repris contact avec moi et on a décidé d'accord en accord, puisque je trouvais que leur puissance graphique était dans la tragédie, donc dans les opéras. C'était un choix qu'on a fait ensemble, d'illustrer des grands opéras. On a même édité un petit carnet sur les opéras, et c'était le sujet de cette première exposition. Donc on n'est pas parti sur de la bande dessinée, on était parti sur un livre illustré.
Je te laisse, tu veux continuer si tu veux.
Non, je t'en prie. Donc nous, l'idée d'Olivier nous a beaucoup plu, et puis on a illustré donc les grands opéras, parce qu'on a voulu sortir... l'opéra du carcan de la scène de la scène théâtrale, qui est souvent pour des histoires spectaculaires, visionnaires, comme la Flûte enchantée, la Tétralogie de Wagner, l'Aïda et autres grandes œuvres de Verdi, de la sortir de ce carcan pour lui donner une vision spectaculaire, voire cinématographique, puisque c'est quand même notre formation, et réaliser des très très grands dessins pour représenter la Traviata, Orphée, tous les... Non, qu'est-ce que je raconte, Orphée, c'est l'expo suivante dans le cadre des légendes. Donc, ça a eu beaucoup de succès et donc ça nous a beaucoup encouragé à continuer de travailler ensemble. On a fait une deuxième exposition sur le même principe, c'est d'illustrer les grandes légendes comme Attila passant les Alpes, Jeanne d'Arc menant ses hommes au combat ou... Attila.
On a navigué entre des moments historiques très connus, des légendes comme l'Iliade et l'Odyssée, et à la fois des grandes œuvres littéraires, puisque vous aviez aussi illustré Dumas et d'autres œuvres là qui me reviennent pas à l'esprit. Mais voilà, on a fait une grande exposition. Pour l'instant, il n'y a pas eu de recueil de toutes ces illustrations, mais ce sera le cas dans les mois à venir. Et voilà, tout le travail est parti de là. Et pour les premières bandes dessinées, c'est amusant parce que c'est une. Je pense que c'est les personnes de Futuropolis, l'éditeur des livres que vous voyez sur l'écran, ont contacté Paul et Gaëtan pour réaliser leur première bande dessinée avec eux.
Voilà,
je vais te raconter la magie du premier livre.
Et donc, on a fait notre premier livre de BD, nous sommes des jeunes auteurs de BD, avec l'acteur Christophe Malavoie. Je ne sais pas si certains... peut-être les jeunes ne le connaissent pas très bien, mais c'était un acteur qui avait tourné avec Chabrol, etc., etc. Et lui, c'est un grand célinien, c'est un grand amoureux de l'écrivain Céline, de son nom à la ville, de le docteur des Touches, et nous a demandé justement si on pouvait participer. Il avait écrit un scénario qui racontait la fuite de l'écrivain, comme vous le savez, très très controversé, puisque c'est un écrivain un écrivain majeur de les littératures du XXe siècle, ça c'est évident. Au moment de sa fuite, au moment de l'épuration, de la sortie de guerre, donc il a préféré fuir plutôt que d'être jugé, parce qu'il risquait fortement la condamnation à mort. Et c'est ce que l'histoire raconte. Et donc ça nous a beaucoup intéressé de participer à cette aventure. Et donc nous avons, sur son scénario, la cavale du docteur Destouches, enfin on a trouvé le titre ensemble, d'illustrer, enfin de raconter ce scénario, cette histoire en bande dessinée. C'était une vraie, c'était, la difficulté résidait dans le fait que nous avons là affaire à des personnages historiques, des personnages qui ont réellement existé, non seulement Céline avec le chat Bébert, sa femme Lucette et puis son compagnon de misère Robert Le Vigan, autre acteur célèbre du réalisme poétique français dans les années 30, qui a tourné avec Carnet, avec Renoir, etc. etc. Et, donc, et puis aussi, bien entendu, hein, des personnages aussi importants que Pétain, Laval et François de Brion, qui étaient des grands collaborateurs. Et donc, mais on a traité cette aventure comme Céline aurait pu la revendiquer, c'était avec beaucoup de truculence, un sens de, très net de la provocation. On a fait le film en noir et blanc parce qu'en parlant de cette époque, c'est tout de suite le noir et blanc qui nous vient à l'esprit. Et puis on est aussi des grands amoureux du noir et blanc. Nous adorons toute l'époque du réalisme poétique français qui était en noir et blanc, et notamment l'expressionnisme allemand avec Fritz Lang, Murnau, qui sont nos grands inspirateurs sur le plan cinématographique. Le livre a pas mal marché, si bien que ça nous a, nous on est tombés amoureux, mon frère et moi, de cette forme d'expression que représente la BD. Et derrière, on a enchaîné avec L'automne à Pékin, avec cet autre écrivain visionnaire qui est Boris Vian. L'automne à Pékin étant un livre assez méconnu, mais c'est, à notre avis, c'est le livre qu'on préfère de la, de la bibliothèque, comment on dit. Bibliographie de Boris Vian, merci Olivier. Si tu veux intervenir.
L'autre petite anecdote, c'est que L'automne à Pékin, que vous voyez aussi là, ici en bande dessinée, à la base, c'était un désir de dessin animé que vous aviez, ton frère et toi.
Absolument, c'était là encore. Alors, quand on est rentré en France après notre aventure américaine, on a voulu faire un dessin animé en France sur une adaptation de L'automne à Pékin, pour lequel on a fait un animatique des 10 premières minutes. À l'époque, Didier Brunner, c'était le producteur des Triplettes de Belleville, je ne sais pas si ça vous parle, en animation, était tombé amoureux du projet. On a essayé de le monter. Canal Plus n'a pas voulu suivre. Il trouvait que ce n'était pas assez grand public. Donc le film, à nouveau, n'a pas pu se faire. Et c'est pour ça que, refusant cette frustration, nous avons donc profité de notre intrusion dans le monde de la BD pour en faire un album de bande dessinée qui existe maintenant et qui a rencontré un certain succès critique. On a donc, du coup, Futuropolis, pour l'anniversaire de la naissance de Vian, il y a en 2010, qu'est-ce que je raconte, en 2017-2018, a voulu faire un livre illustré avec le texte intégral sur son livre le plus connu, qu'est L'écume des jours. Donc là, on est revenu à l'illustration pour l'illustration. Et derrière, nous avons ensuite enchaîné avec chez Futuropolis avec une nouvelle adaptation. Du coup, on s'est un peu, nous spécialisons un petit peu dans les grands auteurs français. Là, on a carrément attaqué Balzac avec les contes drôlatiques. Tu veux dire quelque chose ?
Non, ben, ce serait pour prendre ta suite.
Voilà. Donc, les contes drôlatiques, c'est quoi ? C'est très méconnu. Là aussi, on aime bien révéler des œuvres de grands auteurs qui sont moins connus. Les contes drôlatiques, c'est, comme le dit le titre original, c'est Les 100 contes drôlatiques, écrits par Monsieur Honoré de Balzac. Balzac, à l'époque, avait voulu se faire une petite récréation et, en hommage à Rabelais, a écrit, non pas 100, comme c'était son ambition, mais 30, où raconte des histoires un peu lestes, truculentes certes, et coquines, disons, très nettement coquines, sur un ton rablaisien. Ça nous a beaucoup plu. De ces 30 contes, nous en avons sélectionné 4, et qui a donné lieu donc à ce nouvel album de bande dessinée. Voilà où nous en sommes, avant de vous parler de ce qui va suivre, que représente l'enfer.
Parce que maintenant, on va parler de ma frustration. Moi, évidemment, je voyais, en tant que directeur de galerie et éditeur, je voyais Paul et Gaëtan faire de magnifiques livres. Mais moi, j'avais envie d'en faire un avec eux, une BD magnifique. Sauf que moi, ce que je voulais voir avec Paul et Gaëtan, c'était une tragédie. Parce que je trouve que Paul et Gaëtan ne sont jamais aussi forts que quand ils font de la tragédie. Quand vous irez à la BMI, vous verrez les originaux que vous avez vus, vous verrez, vous prenez une claque. Hein. C'est des dessinateurs qui sont capables de dessiner avec la force de Gustave Doré, Honoré Daumier ou Goya, ils sont pas nombreux, hein, surtout dans ce métier. Surtout que là, voilà, je leur ai demandé, j'aurais dit, écoute, c'était, bah, Paul était déjà à Chicago, pas à Chicago, à Washington. Donc je dis, Gaëtan, écoute, moi ce que j'aimerais qu'ensemble on fasse une adaptation de L'Enfer de Dante. Je dis, c'est très simple, je suis intellectuellement incapable de lire ce livre, je suis incapable de lire la Divine Comédie, c'est trop compliqué pour moi, et pourtant j'ai vu l'illustration de Gustave Doré, je rêve de lire et connaître cette histoire. Donc je dis, bon, toi Gaëtan et toi et Paul, je sais que vous en êtes capable, même en lisant le texte original en italien. Et donc j'aurais dit, Gaëtan, Paul, est-ce que vous voudriez bien pour les éditions Magen réaliser cette adaptation? Et la réaction au départ n'était pas celle que j'espérais.
Voilà, alors dès qu'Olivier nous a... Il avait un tel enthousiasme. Moi, j'étais gêné, je ne savais pas comment répondre à cet enthousiasme, parce que dès qu'il a dit ça, ça m'a tout de suite... j'étais pas emballé par l'idée. Enfin, je dis je, nous, puisque Paul était là, nous n'étions pas emballés par l'idée. Pourquoi? Parce que ça se... L'Enfer, la Divine Comédie, c'est énorme, quoi. En plus, la réputation universelle d'une telle œuvre, c'est quand même intimidant. Et puis donc, on ne lui a pas dit oui tout de suite. On lui a dit, ben je sais pas. Enfin, on a pas mal parlé. On lui a dit oui, mais on va réfléchir. Donc, on a réfléchi
et
on
a beaucoup insisté derrière quand même. Hein. J'ai redemandé plusieurs fois.
Il peut être lourd, pas. Et donc, non, mais c'est difficile de refuser quoi que ce soit à Olivier. Comme vous voyez, c'est vraiment la crème des hommes. Et donc, le challenge était double. Il était sur le fond comme sur la forme. Sur le fond, c'est évident que l'œuvre étant tellement riche et tellement complexe, en fait, qu'on se demandait par quel bout il fallait la prendre. Parce que de toute évidence, devant devenir une bande dessinée, il fallait faire... une forme de vulgarisation, mais j'aime bien cette formule de dire une vulgarisation noble, si je puis dire. Bien préserver sur le fond l'intégrité de la pensée de Dante, c'est quand même, en fait, c'est avant tout, c'est un poème énorme, hein, et donc c'est plus un poème qu'un roman ou qu'une histoire, un poème narratif, on va dire. Et donc, quand vous lisez, c'est très riche. Et puis alors, il y a une accumulation de plein, non seulement d'épisodes, mais Dante fait beaucoup d'allusions à des personnages politiques de son temps. On est quand même au XIVe siècle, donc ça a 700 ans, de gens oubliés depuis très longtemps, sauf d'éminents historiens. Donc il fallait revisiter tout ça, faire un choix, trier, de manière à rendre l'œuvre grand public, mais sans trahir l'essentiel même de ce qu'est l'enfer.
Alors moi, je voulais vous dire, en tant qu'éditeur, on édite quand même de nombreux livres et bandes dessinées aux éditions Magen, et la difficulté d'adapter un tel texte, c'est qu'elle demande beaucoup de compétences que ne peuvent pas avoir tous les auteurs de bandes dessinées. Un, la première compétence, pouvoir lire, comme je vous le dis, ce livre, ce dont moi, je suis incapable. La deuxième, c'est pouvoir l'adapter. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prendre, extraire tout ce qu'il y a dedans et puis garder que le meilleur. Ça, c'est la deuxième partie dont vous parlez un instant, Gaëtan. Il y a une troisième étape. Après, il faut storyboarder. C'est-à-dire que vous avez un texte écrit, mais après, il faut le storyboarder case par case pour arriver au final à 150 pages. Et après, la dernière, il faut reprendre les textes. Vous voyez, ce n'est pas parce que des textes ou des dialogues, des textes off, les textes que vous lisez en haut des cases, ou les dialogues fonctionnent dans un livre, dans un roman, qu'elles vont fonctionner en bande dessinée. Et en vrai, la chance que j'ai eue avec cette personne unique qui est ce duo, c'est qu'ils ont toutes ces capacités-là grâce à toutes ces années d'expérience de dessin animé réalisé ou non chez Disney ou DreamWorks ou autres, c'est qu'ils ont toutes ces capacités-là. C'est-à-dire prendre un grand texte et pouvoir le traduire en bande dessinée. Je vous assure que dans la profession, alors que je vous dis, je fais ça depuis 20 ans, j'ai vu des centaines et centaines d'auteurs, je ne connais pas, il doit y en avoir évidemment, mais à ma connaissance, capable de faire avec ce niveau-là, en moins d'un an, un album de 150 pages de ce niveau-là, je ne connais personne. Et je vais vous avoir, il va vous expliquer Gaëtan pourquoi On a la chance aujourd'hui d'avoir, grâce à quelque chose d'un peu de malheureux, même complètement malheureux, on peut avoir ce livre-là. Gaëtan va vous raconter pourquoi il s'est senti pas vraiment obligé de dire oui.
Alors oui, donc Olivier est trop gentil d'exprimer tout ça et de me faire tant d'honneur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de talent en France et on le voit ici au festival. Il y a des dessinateurs extraordinaires et je suis toujours étonné de cette qualité et de cette diversité qu'il y a en France et qu'il n'y a pas dans les autres pays, certainement en Belgique, je dirais en Europe quand même, que je n'ai jamais trouvé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a vraiment les Marvel, les super-héros, et au-delà de ça, il y a des bandes dessinées alternatives, mais c'est vraiment de l'underground. Donc, ceci mis à part, donc, pour illustrer les propos d'Olivier, c'est vrai qu'après, il a fallu nous mettre à la tâche une fois qu'on a décidé. Et là, c'est sur le fond, sur la forme que nous avons réfléchi. On s'est dit, on va essayer de trouver la forme idéale pour raconter ce texte entre illustration traditionnelle, comme les dessins qu'on fait pour la galerie quand il s'agit d'art, et en même temps la BD, avec sa codification, son langage typique, les bulles, les cases, etc., etc. Et on a cherché une forme un peu hybride pour se situer au milieu de ces deux courants. Je parle vraiment sur la forme, c'est-à-dire le refus d'avoir des ballons avec un texte qui claque trop, avec des fonds blancs sur des décors, des cases toutes bien dessinées et tout ça. Et donc, parfois, on fait ça. Alors, les bulles, vous verrez, les textes, pas maintenant, vous ne pourrez pas le voir à l'expo, mais vous verrez dans le bouquin, les textes, on les a bien intégrés dans le décor de manière à ce que ça ne nuise pas au contraste.
Pour vous expliquer techniquement, c'est qu'il y a un storyboard complet qui a été fait par Paul Gaëtan sur des toutes petites feuilles ou sur carrément des post-it. Et on va éditer d'ailleurs avec les éditions Corrette, on va faire un crowdfunding, on va éditer ce carnet de croquis qui sera qu'à 500 exemplaires, où vous verrez comment ils ont fait entièrement le livre. Vous allez voir que des fois, c'est là-bas que vous avez vu l'illustration, une grande illustration comme ça à la base, c'était en vrai à la base une toute petite, un petit post-it comme ça, pour vous donner leur manière de travailler. Et les textes étaient sur les post-it ou sur les papiers que vous voyez là. Et après, nous, on les rajoute par ordinateur. C'est-à-dire que les textes ne sont pas, comme vous le verrez à l'exposition, sur les originaux. C'est rajouté à part, d'après les indications de Paul et Gaëtan, sur les planches originales. Voilà, pour vous expliquer la manière de travailler sur les planches originales.
Voilà, alors l'histoire des post-it, pourquoi ? C'est parce que on ne se lance pas comme ça dans une mise en page sur des grandes feuilles, On veut d'abord bien maîtriser la composition dans une page. Et donc on travaille. Pour les post-it, c'est pourquoi c'est possible ? Parce qu'on aime bien, travailler très petit, parce que c'est là où vous contrôlez bien une composition, une lumière, comment les choses vont s'agencer dans la page. Dès que vous travaillez grand, vous perdez un petit peu la notion des choses. Donc on travaille toujours très petit, c'est vraiment des crebards, quoi. Mais enfin, des fois, même sur quand le décor est un peu à l'honneur, qu'on présente des gens, les post-it peuvent même être assez poussés, assez élaborés, jusqu'à trouver vraiment.
D'ailleurs, excusez-moi, mais j'ai oublié de vous le dire, mais à l'exposition, dans des vitrines, vous avez ces étapes-là. Vous les verrez dans l'exposition à BMI, j'avais oublié, mais vous avez des étapes préparatoires dans l'exposition.
Ben je t'en prie. Et donc, parce que vous comprenez, il faut toujours bien préparer son travail, bien savoir, parce que chaque planche, vous le verrez, demande des heures et des heures de travail. Des fois, une seule planche, un seul dessin sur une seule planche peut me demander une semaine. Je ne veux pas me gourer, comme on dit vulgairement. Donc avant de faire vraiment un grand dessin, je fais une, deux, trois, quatre, voire cinq compositions différentes. Notamment le premier dessin, quand on voit Dante perdu dans la forêt, c'est la première phrase du livre et de la BD. Au milieu du chemin de ma vie, je me retrouvais dans une forêt obscure. In mezzo al cammino della nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura. Alors ça, je le dis en italien parce que tous les étudiants italiens connaissent cette phrase-là. Donc parce que l'œuvre de Dante est aussi réputée en Italie génie que peut l'être Les Misérables ici en France avec Victor Hugo. Donc pour cette simple phrase, pour commencer fort, on a voulu montrer Dante perdu dans cette forêt obscure. Et d'emblée, pour montrer la force, enfin le lyrisme d'une telle phrase, de ce que ça veut dire aussi même sur un plan purement métaphysique, j'en ai dessiné des fonds de forêt, des arbres et tout, jusqu'à ce que je sois vraiment content, parce qu'une forêt, c'est facile à dessiner, mais c'est pas n'importe quelle forêt, c'est la forêt où se perd Dante, c'est là où il va rencontrer le poète Virgile qui va lui prendre la main pour lui faire traverser les enfers. Donc c'est pour ça que je fais plein de compositions, jusqu'à me dire, voilà, c'est... Ça, c'est fort, là, on est bien. Et à ce moment-là, je peux me lancer dans l'exécution définitive. Parce que si vous vous lancez dans l'exécution définitive, vous vous rendrez compte après que ça aurait pu être autrement, ça aurait pu être aussi comme ça. Il vaut mieux le savoir avant, quand même. Parce que c'est quand même énormément de travail. Donc, voilà ce que je peux dire d'une manière un peu synthétique. Il y aurait tellement de choses à dire.
Alors, ce que tu as oublié de dire, c'est pourquoi vous l'avez fait. C'est qu'ils se sont retrouvés bloqués comme tout le monde. Ils se sont retrouvés en confinement. Et ça, ça a été ma chance, pas pour tout le monde, mais pour moi, ils étaient bloqués, il fallait bien qu'ils s'occupent. Et comme ils travaillent très très vite, et ben c'est grâce au confinement qu'ils ont attaqué. Donc moi, j'avais la chance que pendant le confinement, ils m'écrivaient pour me dire « Olivier, on travaille sur l'enfer de Dante ».
Voilà. Parce que,
ça n'a pas plu à tout le monde, mais pour moi, ça a été un bonheur le confinement, au moins pour cette partie-là.
Pour moi aussi, ça a été le revers de la médaille. Enfin, au contraire. C'est le contraire de la revers de la médaille, je ne sais pas comment on dit. C'était un mal pour un bien, voilà, c'est ça que je cherchais. Un mal, bien sûr, parce que c'est facile d'imaginer qu'une pandémie, ce n'est pas drôle. Mais à partir du moment où on n'est pas touché par la bête, de rester enfermé chez soi. Enfin, j'ai la chance aussi de vivre dans une maison avec de la nature autour de moi. J'habite dans le sud, j'ai de la lumière, j'ai de l'espace et j'ai le bon air. Donc, c'est mieux d'être confiné dans ces conditions-là. Mais j'ai aussi un très grand bureau avec de très bons crayons. Et puis, donc, on a pu avancer comme ça. Étant donné qu'on était un peu bloqué, ben, on a été beaucoup plus performant et productif que d'habitude. Et on a fait le livre, finalement, en moins d'un an. Mais c'est vrai qu'on travaille tous les jours. On est quand même des bosseurs. Et puis voilà. Et puis, on est déjà sur le prochain, là.
Et donc, je vais vous raconter donc, la particularité du travail. Donc, vous savez, il y a quand même 150 pages. Et donc, la difficulté de ce travail, c'est qu'il y en ait un, surtout en confinement, qui travaillait du côté de Nîmes et l'autre à Washington. Donc, le problème, c'est que pour qu'un original soit complet, il faut que l'un et l'autre aient travaillé dessus. Donc, la particularité de Paul et Gaëtan, c'est que, par exemple, si une planche, là-bas, vous avez vu des planches avec particulièrement un décor important et que, par exemple, Dante et Virgile, que deux petits personnages, c'est Gaëtan qui va commencer l'original et puis après, Paul le complétera. Par contre, à un moment, vous avez vu, vous avez une grande page avec plein de personnages avec des capuches, parce que j'arrive pas à dire le mot, encapuchonnés, ça arrive. Et donc, là, c'était Paul qui commençait et Gaëtan qui finissait. Donc en vrai, dans l'absolu, ils n'ont mis qu'un an pour le faire, mais en vrai, ils ont mis un an et demi, deux ans, parce qu'il fallait que les originaux passent de l'un à l'autre. Et donc, vous voyez, toute la difficulté de l'adaptation était là. Donc, vous voyez, dans cette profession non plus, je ne connais pas de personnes qui ont cette humilité qui leur permet de travailler à deux sur un original. C'est vraiment une particularité. Quand vous verrez les originaux, en vrai, vous n'êtes pas capable de voir qui a commencé, qui a terminé. Et vous n'avez aucun problème de liaison entre le personnage et le décor. Parce que vous voyez, il pourrait y avoir un petit espace entre le... Non, c'est parfait. Et une autre particularité technique des dessins, vous verrez pourquoi les originaux sont magnifiques. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait que c'est aussi satiné, ce crayon ? En vrai, c'est une particularité. Ce sont des Prismacolor qu'à la base, on ne trouvait qu'aux États-Unis. Vous les verrez en là que les originaux sont qu'en noir et blanc. Mais en vrai, ils existent en toutes couleurs. Et leur particularité, c'est que dedans, il y a de la cire, comme vous savez, comme pour la cire pour vos chaussures. Et donc, vous verrez, les originaux sont magnifiques, car satinés. Vous regarderez, là, il y a Gaëtan qui dédicace, là, dans la bulle, juste là. Regardez dans les livres, essayez de voir ce côté satiné. Allez voir les livres et après, allez à l'exposition et comparez ce que c'est qu'une impression par rapport à l'original. Vous verrez, on perd quand même le côté satiné. Et c'est ça qui est exceptionnel, d'avoir pu amener l'exposition ici, qu'on retrouvera à la Galerie Maguen au mois de décembre. c'est que vous allez voir les originaux, la vraie texture et la lumière. Vous voyez, parce que en vrai, la plus grande force de Paul et Gaëtan dans leur travail, c'est qu'est-ce que c'est là. Je pense qu'il y a des jeunes illustrateurs ou des jeunes dessinateurs. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne image? C'est-à-dire que toute la construction de l'image, là, vous avez aussi un grand monsieur de la construction de l'image, vous avez Loïc Joanigo qui est au premier rang, là, qui se gratte la tête. Et vous voyez, vous regardez aussi les illustrations de Loïc Joanigo, vous verrez que toute la lumière, tous les objets vont vous amener sur un seul endroit de l'image, celui où vous devez regarder. C'est-à-dire qu'en vrai, vous pensez que vous regardez où vous voulez dans une illustration de Loïc Joanigo ou dans une case de Paul et Gaëtan. Non, ils vous amènent exactement à l'endroit où ils veulent et à l'émotion qu'ils veulent que vous ressentiez. Voilà, c'est ça la force de leur travail.
Oui, c'est une forme de théâtralisation. Vous savez, hein, ici, c'est comme au théâtre, vous avez... Tiens, je t'ai mis de l'eau ici. Sans sentir que c'est un projecteur très directionnel. Parfois, on l'use, cela dit, comme dans certaines planches. Et puis, comme je vous le disais, notre influence vient aussi de l'expressionnisme allemand. Et l'expressionnisme allemand, je ne sais pas si ça vous parle. C'est par exemple même un film comme Nosferatu, qui est un vieux film des années 20, muet, qui a été ensuite mis en musique. Ça reste un chef-d'œuvre, quoi. C'est sur un plan purement visionnaire, d'image, de mise en scène. C'est extraordinaire. Et Fritz Lang, le Docteur Mabuse, tous ces films-là. Et par la suite, relayé d'ailleurs dans le cinéma américain par ce qu'on appelle le film noir, où on garde l'idée de contraste très fort pour limiter, pour en fait, c'est le refus de mettre des détails en avant. Les détails existent, mais c'est jamais mis en avant pour que justement on aille à l'essentiel. Mais ça, c'est un exercice qui est pas évident non plus. Enfin, nous c'est ce qu'on aime. On en est les modestes suiveurs par rapport aux grands noms que je viens de citer. Vous savez, tous les artistes ont leur influence. Vous savez, c'est Paul Grimaud qui était un monsieur, c'est un grand monsieur de l'animation française. C'est lui qui avait fait La Bergère, le Ramoneur avant la guerre et juste à la sortie de la guerre. Qui nous a un peu formés à l'animation. C'est ce qu'il disait souvent. Mais tu sais, on n'invente rien. On réinterprète. Il faut garder la nature, s'en inspirer, suivre les modèles qu'on a et apporter sa modeste pierre à l'édifice. Je crois beaucoup à ça.
Y a de nombreux jeunes aujourd'hui ici, pour vous expliquer l'importance de Paul Grimaud, qui a fait Le Roi et l'Oiseau avec un très grand poète qui est Jacques Prévert. À l'époque, quand Miyazaki a voulu créer les studios Ghibli, il a acheté le film complet du Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et il a regardé image par image comment a fait Paul Grimaud son dessin animé. C'est-à-dire que Miyazaki, pour apprendre à faire un dessin animé, a regardé comment a fait Paul Grimaud. C'est-à-dire qu'imaginez quand même un des plus grands créateurs en dessin animé, son inspiration est ce qui se disait Paul Grimaud, un artisan français. Donc avant d'écouter vos questions, je vais vous expliquer donc une dernière chose. Donc ce livre-là, cette première adaptation de cette grande œuvre littéraire, et donc L'Enfer de Dante, et c'est une nouvelle collection aux éditions Maguen donc, que je dirige. Et donc la deuxième œuvre qu'on va adapter, on va se venger de Disney, c'est nul, et on va, la deuxième adaptation, pas on, ils vont, c'est eux qui vont bosser, moi je vais les regarder, en buvant un café, donc on va faire l'adaptation de Don Quichotte. Et ce qu'il faudra savoir, c'est que si ça vous intéresse, Gaëtan pourra vous expliquer pourquoi il va changer de graphisme, c'est-à-dire que le dessin que vous allez voir, qui est assez réaliste, il va changer de style pour Don Quichotte. Il pourra vous expliquer pourquoi, si ça vous le souhaitez. Donc on passe d'une très grande œuvre italienne à une grande œuvre espagnole. Et le suivant, le troisième tome de cette collection des grands classiques, toujours par Paul et Gaëtan Brizzi, parce que je veux qu'il reste, ça sera Songe d'une nuit d'été. Comme ça, on passe en Angleterre. Voilà, après, on trouvera bien une œuvre française, une tragédie adaptée. Mais voilà. Est-ce que vous voulez que Gaëtan vous dise pourquoi il va changer de style graphique avec Paul pour Don Quichotte ? Est-ce que ça vous intéresse ?
Oui, alors, pour faire court, pourquoi cette question se pose-t-elle ? C'est parce que je parlais tout à l'heure de respect de l'œuvre initiale de l'auteur. sur le fond, c'est évident, mais aussi sur la forme. C'est-à-dire que sur le Dante, vous verrez qu'on est quand même dans une approche très réaliste. Pourtant, on est dans un domaine fantastique, mais on est dans une approche réaliste parce que Dante prend ses personnages très au sérieux. C'est une œuvre grave et profonde. Et donc, et en même temps, dès qu'on est dans le fantastique, je crois que c'est bien d'être réaliste pour être tout simplement plus impressionnant. Il faut impressionner. Et, bon, et comment on impressionne? En se disant... on a l'impression d'y être, quoi, de manière à créer cette atmosphère de malaise. Parce que quand on parle de l'enfer, on peut pas, on peut, si on se sent à l'aise dans cet univers, c'est qu'on a un vrai problème. Donc ça, c'est une chose. Quand, en lisant, en relisant Cervantes, quand vous lisez Cervantes, je ne peux pas le traiter de la même manière. Pourquoi? Parce que Cervantes, lui... c'est pas qu'il se prend pas au... si, non, il ne se prend pas au sérieux, il ne prend pas ses personnages au sérieux. D'abord, c'est l'histoire, comme vous le savez, d'un vieil homme qui veut vivre au passé et qui a des visions, qui voit la réalité d'une autre manière. Et donc, quand il cherche sur des moulins, pour lui, ce sont des géants. Et donc, l'idée, c'est de... Il y a donc une truculence, il y a une caricature de la... Cervantes est très cruel envers son personnage, envers Don Quichotte lui-même. Il le malmène, il en parle en ridicule. Il y a un petit côté Molière, d'ailleurs. Chez Cervantes, c'est le Molière espagnol, si je peux me permettre cette comparaison. Et donc, on s'est dit qu'on allait aller là, plus vers une forme un peu plus caricaturale dans le graphisme, tout en continuant d'apporter un grand soin au rendu, au fini, parce que nous sommes des grands amoureux du dessin bien soigné, bien travaillé, mais donc d'aller vers des personnages un peu plus caricaturaux, tous quels qu'ils soient, parce que tout Cervantes caricature même la société dans laquelle évolue Don Quichotte, avec un anticléricalisme, comme souvent les Espagnols le font, hein, si on veut citer Buñuel, ils aiment bien écorcher l'Église et le clergé. Et donc c'est pour ça que là, on a réadapté nos styles, on va glisser. Et c'est ce qu'on trouve un petit peu dans le style de l'automne à Pékin, où on a des, par exemple, dans le Céline, on est très réaliste. Dans l'automne à Pékin, on est plus caricaturé, parce que pareil, l'écriture de Vian va volontiers vers une caricature. Donc c'est important. Mais en même temps, on veut rester cohérent dans l'idée d'une collection, sur les grands classiques, comme l'a présenté Olivier, et de ne pas avoir une trop grande rupture de style.
Alors, moi, ce que je trouve génial, vous savez, dans ces adaptations, c'est que l'enfer de Dante, ce qui va être génial, c'est qu'à travers les deux personnages que sont Dante et Virgile, bah, c'est un peu comme avant d'acheter un appartement, on le visite. Donc là, l'avantage, vous allez visiter les 9 cercles de l'enfer. Et vous saurez pourquoi il visite ces 9 cercles. Vous savez qu'il y a une forme comme ceci. Puisque évidemment, quand vous êtes en haut de l'enfer, c'est que vous faites des petits délits. Puis quand vous arrivez en bas, c'est vraiment les gros crimes. Donc, bon, c'est jamais idéal l'enfer, mais vaut mieux être en haut qu'en bas. Et vous verrez, c'est ça qui est assez génial, c'est qu'on accompagne le travail exceptionnel qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'en 40 minutes de lecture, 30-40 minutes de lecture, vous pourrez visiter avec les deux personnages, ressentir. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que vous allez savoir pourquoi chaque personne est à chaque étage. C'est-à-dire que, et vous allez voir, des fois, vous dire « Ah oui, exact, ah, je comprends !» Et c'est assez impressionnant, et c'est ça qui vous intéresse. Et ce qui est intéressant dans Don Quichotte, qui a quand même beaucoup de passages assez répétitifs, c'est qu'à la fin du livre, vous aurez tous une surprise. Pour ceux qui n'ont pas lu Don Quichotte, moi, je sais que quand ils m'ont raconté la fin, parce que j'ai lu Don Quichotte adolescent, mais j'ai lu le premier tome, et le deuxième, j'ai abandonné au quart. J'étais un peu un lâche, mais j'ai abandonné au quart, et donc je ne connais pas la fin de Don Quichotte. Et grâce à Paul et Gaëtan, je connais la fin, et cette fin est vraiment extraordinaire. Donc maintenant, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Gaëtan est à votre disposition.
Je vous écoute, levez la main, et puis...
Je donne le micro, tac, tiens. Je te laisserai passer à la personne suivante. Ouais.
Bonjour, comment en êtes-vous venu à dessiner l'affiche des Imaginales et pouvez-vous nous expliquer votre travail dessus?
Oui, absolument. Eh bien, écoutez, je suis venu l'année dernière, c'est pas si loin que ça, puisque l'année dernière c'était septembre-octobre, je ne sais plus trop.
Vous savez la fête des images?
Non, c'était le festival. Les Imaginales avaient été décalées à cause du Covid. C'était en octobre, je crois. Et donc Olivier m'avait invité et Stéphane Wieser, qui est le directeur, comme vous le savez certainement, qui est un monsieur vraiment adorable, m'avait invité à participer. Donc je suis venu avec mes livres. On ne parlait pas encore de Dante puisque on était en train de finir les dernières planches à l'époque. Et donc Stéphane est venu me voir et me disait « ça me ferait vraiment plaisir que tu fasses l'affiche pour la prochaine édition et tout ça ». Et donc quand je lui ai posé la question « mais quel type d'affiche ? » Il y a longtemps que je n'en fais pas. « Ah non, mais si tu fais ce que tu veux, il faut que ça représente un peu ton univers, d'autant plus qu'on pense, à l'époque ce n'était pas encore sûr, peut-être exposer les planches de l'enfer que tu es en train de réaliser ». Je lui dis, à ce moment-là, moi, je veux bien la faire, mais donc, je vais, à travers ce visuel, te proposer une image qui aurait pu faire partie du livre. Et c'est pour ça que donc, je dis, quelles sont les contraintes ? Parce que quand je fais quelque chose un petit peu de commande, j'aime bien connaître les contraintes. D'ailleurs, les contraintes pour un artiste, ce n'est pas forcément négatif. Parce que quand on vous donne complètement carte blanche, vous pouvez faire n'importe quoi. Dès qu'il y a une ou deux contraintes, au contraire, à partir de là, on va aller puiser dans son imaginaire. On va pouvoir, si vous voulez, bien guider sa création. Il a dit c'est tout simplement, il faut donner une image un peu d'Épinal, pourquoi pas du château, tout ça. Donc j'ai regardé sur internet château d'Épinal, vous tapez château d'Épinal, j'ai eu plein d'images. Et donc j'ai imaginé nos deux personnages de l'enfer, que sont Dante et Virgile, comme si dans leur passage à travers l'enfer, excusez-moi, ils allaient tomber sur Épinal. Mais Dieu, j'ai dit attention, j'ai quand même donné une image positive d'Épinal, et c'est l'image que vous voyez aujourd'hui, qui a été adoptée sans aucune modification. Donc j'ai imaginé ces deux personnages, Dante et Virgile. Virgile, le poète qui accompagne Dante dans sa quête, dans les épreuves qu'il doit subir pour retrouver sa bien-aimée, en imaginant qu'il passerait par Épinal. Et donc il regarde le château vers le haut, et comme vous avez un magnifique château, et puis que j'aime beaucoup les ruines, les belles ruines, j'ai imaginé ce visuel en essayant d'aérer le plus possible, parce qu'une affiche, il ne faut pas trop la surcharger, au contraire, parce que c'est un document, un visuel qui va devoir inclure du texte, des directions, des informations. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaît, mais c'est évident que c'est du pur Brizzi, oui.
Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu en amont comment ça se passe. C'est-à-dire que la galerie d'Agnès... Là, je ne vous parle pas en tant qu'éditeur, je vous parle en tant que directeur de galerie. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, le président de cette manifestation des Imaginales est Stéphane Wieser. C'est une personne, un jour, qui arrive à la galerie, vient me voir, on ne se connaissait pas, et me dit « Olivier, voilà, j'aimerais organiser des expositions à Épinal. Bon, j'ai pas un rond, la région n'en a pas, il faudrait que tu nous prêtes les originaux, avec les encadrements, etc. » Et après, il m'explique tout ce qu'il veut faire, et j'ai trouvé cette personne fabuleuse. Un être, vous savez, rayonnant, qui vous donne envie de montrer la culture, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu les expositions à l'époque de Laurent Gapaillard, avec des grandes constructions architecturales de végétaux. On a fait Armel Golm avec d'autres expositions. L'année dernière, on a fait la Passe-Miroir. Pour ceux qui sont fans des romans, j'avais travaillé 4 ans dessus. Paul et Gaëtan ont réalisé une illustration dessus. Voilà, donc c'est un partenariat à la galerie. Donc ce qui se passe, Stéphane vient à la galerie, je lui montre différents originaux que j'ai en ce moment. Et là, d'un coup, il découvre les originaux de Paul et Gaëtan. Et il a fait « c'est eux que je veux ». Je veux l'enfer de Tante de Paul et Gaëtan Brizzi. Donc en vrai, voilà, c'était un coup de foudre graphique et littéraire sur le travail de Paul et Gaëtan. Et je pense que c'est la première exposition, mais qu'il en fera sûrement d'autres. Mais voilà comment il en est venu là. Il est venu à la galerie. Et les originaux que vous voyez au mur de la BMI sont des originaux qu'il a vus sur un meuble à la galerie. Voilà, sont simplement un coup de cœur graphique.
Oui, merci pour cette rétrospective sur tout votre travail. Une question, pourquoi se limiter à l'enfer ? Enfin, j'ai peut-être une idée quand même sur la question, parce que vous avez dit que vous préfériez le dramatique, peut-être est-ce pour cela, mais vous amputez la divine comédie.
Alors, c'est une excellente question. En effet, comme vous le savez tous, la Divine Comédie, c'est un triptyque. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Le triptyque très, très universel. Alors, on a pris l'enfer pour deux raisons. D'abord, c'est vrai, comme vous venez de le dire. Je crois que les artistes sont assez attirés on dit Eros et Thanatos, hein, par d'une part l'érotisme et par la fascination que peut exercer la mort. La fascination, non pas en tant qu'attirance, mais au contraire comme quelque chose plutôt de... pour lequel on a une grande appréhension, puisque nous sommes dans l'ignorance. Et donc, ça ne peut qu'attirer tous les artistes. Tous les grands artistes ont toujours été attirés par la mort et par le symbole de la mort, je dirais, par tout ce qu'il peut y avoir derrière comme source de mystère. Nous sommes des grands amoureux du mystère. Moi, je pense que le mystère peut être une fin en soi. Je peux vous dire, par exemple, que sur un plan religieux, je suis ce qu'on appelle un agnostique, c'est-à-dire je ne suis pas athée, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a rien après la mort, mais j'avoue simplement mon ignorance et je dis je n'ai pas d'opinion, je préfère... Et pour moi, ma religion, c'est le mystère. Ça ne me déplaît pas de ne pas savoir et je vais vous dire une chose, moi j'aime bien ne pas savoir parce que ça, au contraire, ça me stimule et puis en même temps, pourtant je sais... Enfin, je devine des forces qui sont au-dessus de nos forces, qui sont au-dessus de notre compréhension, ne serait-ce que déjà de comprendre comment fonctionne l'univers. C'est quand même quelque chose qui peut nous dépasser, sauf à certains scientifiques qui auront tout compris, ce dont je ne fais pas partie, bien sûr. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et donc, pour compléter ma réponse, on peut imaginer en effet une suite, faire le purgatoire et le paradis. Bien entendu, c'est tout à fait envisageable. Pourquoi pas ? J'en parlerai avec Olivier. On va voir aussi le succès du livre, enfin la réception. Mais c'est vrai que je...
On a moins de chance d'y aller, madame, c'est pour ça.
On a moins de chance d'y aller, donc on va vers... Et donc, mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, je préfère les gouffres et les gouffres abyssaux que les champs de fleurs ou les arcs-en-ciel. Par contre, en tant qu'être humain, moi, j'aime bien me balader dans un champ et d'avoir des petits papillons autour de moi. Mais c'est moins marrant à dessiner. Excusez-moi de vous faire cette réponse un peu ironique.
Ce qui est assez drôle, madame, c'est qu'en vrai, vous posez en plus la bonne question. Parce que moi, quand j'aurais posé la question, j'aurais dit, est-ce que vous pourriez faire adapter l'Enfer de Dante ? J'aurais pas demandé d'adapter la Divine Comédie. Et eux auraient pu me dire, mais non, Olivier, on veut adapter la Divine Comédie. Évidemment que j'aurais dit banco. Mais maintenant, à cause d'eux, je sais, moi, en tant qu'athée, je ne suis pas agnostique, je suis athée, où je finirai en ayant lu l'album.
Mais c'est vrai aussi que quand on parle de Dante Alighieri, tout le monde pense à l'enfer. Parce que c'est la partie la plus fascinante, la plus d'ailleurs, la plus non pas seulement la plus inquiétante, mais celle qui pose le plus de questions dans l'œuvre et qui a fait beaucoup couler d'encre.
Est-ce que quelqu'un a une question ? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Ah si, attendez. Ah, toi, t'as vu l'expo en plus. T'as intérêt d'être sympa dans ce que tu dis. Au fond, tu t'approches.
Bonjour. Oui. Oui, vous avez beaucoup parlé de références cinématographiques.
Excusez-moi, j'ai de la lumière dans l'œil.
Ah oui.
Mais c'est pas grave. Allez-y.
Vous avez parlé de références cinématographiques ou de dessins, mais est-ce que vous avez des références au niveau de la picturale, au niveau de la peinture?
Ah, tout à fait. J'en ai même encore plus.
Ah, d'accord.
Nous sommes d'une formation, mon frère et moi, très 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 classique, musée, livres d'art, etc., etc. Beaucoup de, comment dire, par nous-mêmes, d'autodidactes. Donc on a toujours été... Et vous savez, si on a choisi l'animation au départ, c'est pas par hasard, parce que c'est la conjugaison de deux passions. C'est le cinéma, bien entendu, mais aussi la peinture. Notre maître, le premier nom que je pourrais citer, qui est d'ailleurs un peintre un peu controversé, non pas controversé politiquement, mais il y a des gens qui sont un petit peu réticents à sa peinture, c'est Arnold Böcklin. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un grand peintre un peu méconnu. C'est un peintre tout à fait fin 19e, début 20e, qui a comment dire, inspiré beaucoup d'autres peintres. Son œuvre la plus connue, la plus célèbre, on va dire même la moins méconnue, c'est L'île des morts, qui représente justement L'île des morts. Et on voit sur une barque un personnage en blanc qui avance dans une barque vers une île avec une espèce de construction, d'une construction massive entourée de cyprès sur un ciel très sombre et une mer immobile. Je vous encourage à vous taper l'île des morts sur Google Images et puis vous allez voir de quoi je parle. Alors ça, c'est le...
À Berlin, je crois, une des versions.
Il y a une version qui est à Berlin, une des plus belles versions est à Berlin. Il existe 5 versions de l'île des morts. Sinon, il y a donc on est des grands amoureux de la peinture. Alors, on aime beaucoup l'impressionnisme, comme tout le monde, si j'ose dire. Mais on aime bien. C'est le 19e siècle qui nous inspire beaucoup. Et par exemple, des peintres qui à l'époque étaient appelés peintres officiels, des gens comme Jean-Paul Laurens, c'est des gens qui étaient bien reconnus de leur temps. Mais des grands peintres aussi comme Sargent. Je ne sais pas si vous connaissez John Singer Sargent, qui est à la Tate Gallery. Regardez aussi ce qu'il fait, c'est magnifique. Alors là, vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'aime pas que les peintres forcément réalistes et qui avec un pinceau sont d'une justesse incroyable. Mais enfin, quand il y a une grande facilité, et Sargent fait partie de ces peintres, on se demande, c'est magique, il prend un pinceau, vous sentez, vous approchez, c'est vraiment des touches comme, c'est magistral, quoi. C'est celui qui a fait le portrait de Madame X ou Madame Gautreau qu'on voit au Metropolitan Museum, cette femme habillée dans une robe noire. Elle a juste elle a sa main sur une table comme ça, et puis elle a une bretelle de sa robe noire qui est un peu descendue, qui avait choqué à l'époque. Sargent avait dû peindre une deuxième version avec la bretelle remontée, qui est sublime, quoi. Donc il y a Sargent, il y a James Tissot, il y a Jean-Paul Laurens qui a beaucoup peint des scènes un peu ecclésiastiques, comme ça, un peu de procès, de choses comme ça, qui est fabuleux. Benjamin Constant. D'une certaine manière, les grands orientalistes, Jean-Léon Gérôme et bien d'autres, Fortuny qui était un peintre d'ailleurs multitalentueux, Georges Clairin, voilà. Donc beaucoup de peintres du 19e. Si on monte un peu plus loin, on va trouver bien entendu les grands peintres de la Renaissance italienne, bien entendu. Qui d'autres, enfin. Bien d'autres peintres encore, j'en oublie certainement.
Et pour moi, en tant qu'éditeur, en tout cas, ça a été clairement Gustave Doré. Hein. Voir les illustrations de Gustave Doré de l'Enfer de Dante. Après, je n'ai pas le travail à faire, mais c'est évidemment voir l'Enfer de Dante. Je vais vous dire, si vous cherchez après sur Google, vous regardez l'Enfer de Dante de Gustave Doré, vous regardez l'Orlando Furioso, vous regardez Don Quichotte, vous avez envie de pleurer, quoi. Et la Bible, oui, c'est extraordinaire. Hein. C'est monstrueux.
Oui, un mot bien entendu sur Gustave Doré. Gustave Doré qui est un grand dessinateur. Il a tout illustré. Mais vous savez, c'est aussi un très grand peintre. Je vous invite à Paris à aller au Petit Palais, voir l'arrivée du Christ au Jardin des Oliviers qui porte sa croix. Alors la peinture... Oui, à Strasbourg. Oui. Voilà. Alors... quand on parle de peinture religieuse, on pense tout de suite à la Renaissance italienne, au moment où il n'était pas question de peindre d'autres scènes que des scènes religieuses. Et après, il y a eu ce qu'on appelle les scènes de genre. Mais il fallait attendre le 18e siècle et le 19e encore plus, puisque c'est ce qu'on a appelé aussi la peinture d'histoire, puisque les grands peintres se sont mis justement à peindre les grands sujets historiques, notamment, bien entendu, avec des peintres néoclassiques comme David, Ingres, tous ces grands peintres du début du 19e siècle, de l'époque napoléonienne. Mais pour revenir à Doré, je vous invite à aller voir donc ce tableau au Petit Palais. On parle de peinture religieuse, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est bien le Christ que vous voyez, et ça devait certainement être comme ça. C'est-à-dire c'est parce que les gens mettent, vous savez, facilement les gens dans des boîtes. Ah, Gustave Doré, c'est un grand dessinateur. C'est aussi un très grand peintre.
Alors, je vous expliquais aussi pourquoi Paul et Gaëtan Bridi, même s'ils travaillent à deux, ils vont très vite, ne vont pas pouvoir faire 30 œuvres en bande dessinée comme lui a pu faire autant d'adaptations. Vous savez, il y a une grande différence entre Paul et Gaëtan et Gustave Doré. C'est que Gustave Doré, en vrai, faisait les dessins, mais les gravures n'étaient pas réalisées par lui, hein, des plus connues et pisantes. Mais il y en avait, pour vous dire, il y en avait beaucoup d'autres. Pour vous donner une idée, quasiment tous les graveurs d'Europe travaillaient pour Gustave Doré. Donc comme ça vous donne une idée... Pourquoi ils pouvaient réaliser autant de recueils, hein, vous voyez, si vous avez tout le monde qui grave pour vous. Par exemple, pour faire un arbre, il va devoir le dessiner entièrement, l'arbre. Lui, Gustave Doré, il faisait l'arbre et après, il mettait des petits trucs pour dire « Tiens, là, tu me graves les feuilles, quoi. » Vous voyez, là, bon, ça reste quand même un dessinateur exceptionnel, il aurait pu le faire. Mais vu la globalité des offres, qui s'était fait une liste de tout ce qu'il voulait faire, S'il ne faisait pas ça, il n'aurait jamais pu le faire.